avons un fils. Il est roi. Nous sommes régents. Et nous possédons Monsieur Mazarin comme Premier ministre. Tout va pour le mieux.
Bonjour, aujourd'hui quatrième épisode de notre série consacrée à Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII et la mère de Louis XIV. Comment Anne d'Autriche est-elle devenue régente absolue de la France? Question que nous nous posons cette semaine avec l'historien Joël Cornette. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la reine, après la naissance de son fils, Louis XIV, et la mort de Louis XIII, a réussi à s'imposer comme régente absolue. Le coup est audacieux et personne ne s'y attendait. Le 18 mai 1643, le jour où le matin le défunt Louis XIII est enterré à Saint-Denis, où l'après-midi, la régente Anne d'Autriche se voit investie comme elle le souhaite des pleins pouvoirs, le soir même, elle annonce qui elle a choisi comme principal ministre. Ce sera celui qui se fait appeler Monsignore, c'est-à-dire Giulio Mazzarini, Jules Mazarin, cardinal et diplomate italien.
Je viens de le nommer mon principal ministre.
Cet étranger va donc gouverner la France ?
Monsieur, vous oubliez que j'étais espagnole.
Commence alors entre la régente et le cardinal une étroite et longue collaboration à la tête du royaume de France, malgré les multiples soubresauts de la Fronde, une véritable guerre civile qui, plus d'une fois, conduira Mazarin à l'exil et fera vaciller le pouvoir royal. Jusqu'à la majorité de Louis XIV, le duo Anne d'Autriche-Mazarin va s'employer à affronter les tempêtes, éteindre les complots et les révoltes, diviser les factions rivales pour mieux les soumettre, avec toujours en tête le but de défendre et d'affermir la monarchie. Cette proximité durera même jusqu'en 1661, année de la mort de Mazarin et où le jeune Louis XIV décidera de régner seul.
France Inter, le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Enfin, quelqu'un qui a du génie, une intelligence souveraine qui ne nous écrase ni ne nous terrifie, un être spirituel et bon.
Pourquoi en 1643, Anne d'Autriche a-t-elle choisi Mazarin comme principal ministre ? Les qualités de cet homme ont l'art de plaire à la régente. Son physique, d'abord. Et oui, c'est important. Grand, de bonne mine, bel homme, le poil châtain, l'œil vif et d'esprit, une grande douceur dans le visage, dit un contemporain. Et ce diplomate, habile et expérimenté, ecclésiastique, italien de surcroît, a l'avantage d'être célibataire, sans famille, et de n'appartenir en France à aucune faction, à aucune cabale. Cette solitude est un gage de fidélité pour la régente. Mazarin, lui, en revanche, est à peine nommé ministre qu'il est la cible d'un complot de la part de ses ennemis qui le jugent trop hostile aux intérêts de la noblesse. C'est l'affaire dite de la cabale des importants qui vise à assassiner le cardinal. Sachant que Mazarin se rend tous les soirs au Louvre pour parler des affaires du royaume avec la reine, les conjurés décident que la nuit du 30 août, ils attaqueront le carrosse du cardinal sur son chemin du retour quand il rentrera chez lui à l'hôtel de Clèves. Mais le soir du 30 août 1643, contrairement à ses habitudes, Mazarin, qui a eu vent du complot, ne se rend pas au Louvre. Lorsque la régente apprendra la nouvelle du guet-apens manqué, le 2 septembre, sa réponse, elle que l'on croyait si douce, sera sans pitié. Les conspirateurs, qui pourtant appartiennent à la grande noblesse, seront punis, emprisonnés ou exilés. Joël Cornette, pourquoi dites-vous que le 2 septembre 1643, donc ce jour-là, Anne d'Autriche devient pleinement reine de France ?
Parce qu'elle décide politiquement, effectivement, de punir. Mais une punition, j'oserais dire, douce. Vous voyez, je pense que le temps de Richelieu, la hache serait passée par là. Ils auraient été décapités.
Ah, oui.
Non, cette fois, Mazarin et Anne d'Autriche, c'est une main de fer dans un gant de velours. On pourrait presque dire un gant de velours, une main de velours. Et c'est ce que Mazarin apporte, c'est-à-dire la raison d'État continue, évidemment, mais de manière plus adoucie par rapport à l'époque de Richelieu et de Louis XIII. Mais il est vrai que cette cabale des importants, ça a été un test politique de la reine. Et la reine n'a pas tremblé.
Elle a puni. Par les nobles. Oui.
Voilà. Et donc pour elle, ça a été un apprentissage évidemment important.
Et quel rôle joue Mazarin auprès d'Anne d'Autriche ? Vous dites que c'est un instituteur politique ?
tous les soirs, on dit que pendant au moins une heure, eh bien, il y avait un entretien entre les deux et Mazarin lui apprenait les choses de l'État, les mystères de l'État, d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'est un couple assez extraordinaire. Songez donc qu'une Espagnole et un Italien dirigent la France pendant des années. Et vont être confrontés d'ailleurs à une crise majeure. Et ça, c'est tout à fait unique, je crois, dans l'histoire de France.
Et Mazarin, d'où vient-il ? Quel est son profil, justement, qui soit si peu intéressé, finalement ?
Alors, la rencontre entre elle et lui s'est faite un jour de chasse, en 1132, chasse au sanglier, voilà. et très vite, je pense qu'entre elle et lui, il y a eu quelque chose. C'est-à-dire que lui, évidemment, c'est la culture italienne, c'est la cour papale. Il y a donc une sociabilité particulière, une onction particulière, une prévenance aussi de Mazarin vis-à-vis d'elle. Et je pense qu'elle a vu en lui peut-être la première personne qui l'a considérée telle qu'elle était réellement. Alors, détail, mais détail important, il multiplie les cadeaux, cadeaux d'amitié d'une certaine façon.
Quand il est en Italie, il lui envoie des fruits, des choses,
des bijoux, des camées, des gants parfumés. Vous savez, Anne d'Autriche est très très, comment dire,
raffinée,
à cheval sur sa, sur son apparence, sur sa propreté.
C'est une belle femme d'ailleurs.
Voilà, c'est une belle femme.
Une belle peau blanche.
Et des gants parfumés à la frangipane, c'était un des cadeaux favoris de Mazarin à Anne d'Autriche. Vous voyez, donc voilà, très vite une relation un peu amicale, c'est fait entre eux. Et puis, bien sûr, il y a les qualités intrinsèques de Mazarin. Mazarin, c'est un homme d'État, c'est un diplomate, c'est un expert dans les relations internationales. Et évidemment, dans le cadre de la guerre entre la France et l'Espagne, il joue un rôle évidemment essentiel. Et puis j'ajoute un plus. Ne jamais oublier que Mazarin, c'est le parrain de Louis XIV. Or, Louis XIV perd son père très tôt. Et donc, d'une certaine façon, Mazarin va jouer le rôle de père de substitution vis-à-vis de Louis XIV. Et là se forme donc une sorte de triangle sacré, si vous me permettez l'expression, elle, lui et le petit Louis XIV. Et ça, c'est d'une certaine façon le noyau dur de la monarchie à cette époque. Et ça joue évidemment un rôle important pour tout le devenir des événements jusqu'à la prise de pouvoir de Louis XIV. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, le lendemain même de la mort de Mazarin, de son parrain.
Et vous dites une chose jolie, il me semble, Anne d'Autriche, quand elle apprend la politique avec Mazarin, il lui fait confiance, il ne lui reproche pas ses ignorances.
C'est vrai, je pense que ça a été un instituteur bienveillant. Et c'était rare qu'elle trouve autour d'elle des hommes bienveillants. Et donc je pense que ça a évidemment renforcé leur relation. Alors là-dessus, on a beaucoup glosé, évidemment.
Est-ce qu'ils ont été amants ?
Alors, est-ce qu'ils ont été amants ?
Personne n'en sait rien.
Écoutez, je ne le crois pas.
Dommage, d'une certaine manière, pour la pauvre Anne d'Autriche.
C'est une sorte d'amitié platonique, si vous voulez, très forte. C'est indubitable. Qu'ils étaient amants, ça me paraît difficile. D'abord, on n'a aucun témoignage d'un contemporain, si vous voulez. Or, n'oubliez pas que la reine est sans arrêt entourée, elle a une vie publique. Donc je pense que s'il y avait vraiment une relation sexuelle entre eux, je pense que ça aurait filtré, si vous voulez. Non, ça a été les pamphlets, les mazarinades, cette vague critique au moment de la Fronde, qui évidemment a accusé Mazarin d'être l'amant d'Anne d'Autriche, mais je pense que c'est un peu exagéré.
La princesse palatine, donc, qui était la belle-sœur de Louis XIV, qui était une vraie commère, le préciser. Elle a prétendu donc qu'ils étaient amants et même mariés. Ils auraient eu un mariage secret.
Oui, mais comme vous voyez, la princesse Palatine, elle intervient évidemment beaucoup plus tard. Elle n'était pas évidemment contemporaine, ni même témoin, bien sûr. Donc c'est des racontars, si vous voulez, de la cour. Mais aucune source, encore une fois, l'historien, évidemment, doit partir de
source.
Alors il y a des lettres. Des lettres codées.
Que vous donnez dans votre livre.
Il en reste 11. Mais vous voyez, à partir de 11 lettres, est-ce qu'on peut présumer à une relation sexuée ? C'est difficile.
En tout cas, il y a une affection très forte.
Il y a une affection très forte, ça c'est indubitable, évidemment.
Et une affection nécessaire pendant ces années de la Fronde pour affronter toute cette époque terrible.
Mais je tiens à cette notion de triangle sacré, si vous voulez. Mazarin, encore une fois, c'est le parrain de Louis XIV et ça joue évidemment de façon très très forte sur leur relation à trois.
Mais pendant cette période, la Fronde, il y a eu des moments vraiment terribles qui ont mis en péril la monarchie.
Ah, tout à fait. Des moments où même elle s'est retrouvée seule. face aux frondeurs et pratiquement prisonnière au palais royal. Il y a même une scène terrible en 1651 où la foule a envahi le palais royal, s'est approchée du lit de Louis XIV et
qui est
qu'est-ce
enfant,
qui aurait pu arriver une sorte d'attentat, enfin, et en fait, la foule s'est presque agenouillée devant le roi, si vous voulez. C'est passé là une chose.
C'est pas encore la Révolution française.
Voilà, c'est pas 1789, si vous voulez, ou 1792, les prises des Tuileries. Mais il y a eu quand même des épisodes très très terribles pour elle et pour le roi. Et Louis XIV, évidemment, en a gardé un souvenir très très vif. Et d'ailleurs, Versailles, c'est pas un hasard s'il a décidé de construire un palais en dehors de Paris, parce que Paris, évidemment, c'est un Paris dangereux, un Paris révolutionnaire d'une certaine manière, et c'était le cas au moment de la Fronde.
Merci Joël Cornette. Dans le prochain épisode, nous verrons le rôle joué par la régente Anne d'Autriche dans l'éducation de son fils Louis XIV, et pour lui léguer une autorité royale intacte, quand viendra le jour où il prendra le pouvoir.